Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse au Conseil des droits de l'homme, une instance créée le 15 mars 2006 par l'Assemblée générale des Nations Unies pour succéder à la Commission des droits de l'homme, une commission souvent décriée au cours de ses 60 ans d'existence. Le Conseil est chargé de renforcer la protection des droits de l'homme dans le monde et d'émettre des recommandations lorsque des violations sont commises. Soucieux d'augmenter son impact plus de 5 ans après sa création, le Conseil des droits de l'homme a commencé à revoir durant l'automne 2010 son fonctionnement afin d'améliorer notamment l'efficacité et la crédibilité de l'examen périodique universel. Pour présenter ce Conseil des droits de l'homme, la Radio des Nations Unies avait rencontré au début de l'année le directeur du Conseil des droits de l'homme au Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Bakr Wali Ndiaye, qui répondait aux questions d'Alpha Diallo.
Le 15 mars 2006, l'Assemblée générale de l'ONU créait le Conseil des droits de l'homme et cela faisait partie du courant de réforme des Nations Unies impulsé par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Objectif, remplacer l'ancienne commission des droits de l'homme, très discréditée en son temps. Pour en parler, Bakr Wali Ndiaye, directeur de la division du Conseil des droits de l'homme au Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Tout d'abord, a-t-on eu raison de créer ce conseil et comment présenterez-vous brièvement le Conseil des droits de l'homme aux auditeurs?
Ce conseil donc a été créé pour effectivement remplacer la Commission des droits de l'homme qui avait effectué pendant presque une soixantaine d'années un travail très important mais qui commençait aussi à donner des signes de contradiction, de faiblesse. Et il fallait donc renforcer, c'est-à-dire continuer le travail qui avait été fait par la Commission qui avait été remarquable en matière notamment d'élaboration des normes des droits de l'homme et de création de tous les mécanismes que nous avons aujourd'hui, y compris les rapporteurs spéciaux, mais qui demandait quand même à être rafraîchi et renouvelé. C'est dans ce sens que ce Conseil a été créé.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Et donc le Conseil a tenu sa première session ordinaire le 19 juin 2006. Ce nouveau mécanisme d'examen périodique universel fait partie de ces mécanismes de nouveauté au niveau du Conseil des droits de l'homme. Quelle est la particularité de l'UPR et en quoi il est plus efficace désormais?
Disons que l'examen périodique universel est l'une des plus importantes, sinon la plus importante innovation apportée par le Conseil des droits de l'homme par rapport à l'ancienne Commission des droits de l'homme. La résolution qui établit le Conseil a prévu la suspension d'un membre du Conseil au cas où ce membre serait engagé dans des violations graves et massives ou systématiques des droits de l'homme.
Mais ce n'est pas encore arrivé pour le moment.
Ce n'est pas encore arrivé pour le moment, mais cette possibilité n'existait pas du tout.
Mais qui peut décider cette suspension?
Deux tiers des membres de l'Assemblée générale. Donc n'importe lequel des membres du Conseil peut prendre l'initiative et demander un vote aux deux tiers de l'Assemblée générale. Donc cette possibilité existe alors qu'avant elle n'était même pas envisageable. Ce qui est important aussi de noter, c'est que chaque membre du Conseil doit lui-même passer devant l'examen périodique universel, doit être examiné pendant son mandat. C'est-à-dire qu'il arrivait souvent que des membres se fassent élire au Conseil pour échapper à l'observation.
Donc ça veut dire que maintenant, on peut aussi bien examiner la situation des droits humains en Iran qu'aux États-Unis.
Les deux. Mais tous les pays du monde, maintenant. Parce que jusqu'à présent, à la date du 15 septembre, 126 pays ont été examinés.
Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Et donc, pour rester sur l'examen périodique universel, on sait que depuis fin octobre, le Conseil des droits de l'homme a commencé à revoir pour la première fois son fonctionnement afin d'améliorer l'efficacité et la crédibilité de l'IPU. Qu'en est-il exactement et quels changements peut-on attendre?
Il est clair que le plus grand défi qui se pose au niveau de l'examen périodique universel, et c'est important, bien sûr, qu'il en soit ainsi, mais pour nous, le plus important, c'est que cela se traduise par un changement, une amélioration positive des droits de l'homme sur le terrain. Donc le défi qui se pose, c'est une fois qu'on aura terminé de voir tout le monde, est-ce qu'au deuxième cycle, quand le pays reviendra, on pourra constater qu'il y a eu effectivement amélioration de la situation sur le terrain?
Seconde partie de cette interview, nous allons revenir encore sur la composition du Conseil des droits de l'homme. Mais c'est-à-dire, quelle différence par rapport à l'ancienne Commission des droits de l'homme? Car certains critiquent le fait que le Conseil des droits de l'homme ne soit pas formellement interdit aux pays auteurs de violations de droits humains. Est-ce que des critiques acceptables?
Mais ce qui a été retenu, c'est qu'il ne fallait pas faire du Conseil des droits de l'homme un club de pays qui seraient particulièrement respectueux des droits de l'homme et d'où les pays qui ont des problèmes plus importants, puisque nous pensons que ces pays-là aussi ont une responsabilité et doivent donc à la fois être inclus. Donc tous les pays du monde devraient avoir la capacité d'être élus. Bon, étant donné que l'élection est là pour les départager, nous n'avons pas en fait un pays où il n'existe pas de problème des droits de l'homme. Tous les pays en ont, à des niveaux, à des degrés divers. C'est pour cela que l'examen périodique universel a été un grand révélateur et un très très bon instrument, puisqu'il a permis de montrer qu'il n'y a aucun pays qui n'a reçu que des félicitations et sur lesquels il n'y a eu aucune recommandation pour améliorer ce qui se passe.
Et cela pose alors le problème d'universalité du Conseil des droits de l'homme. Mmh. Et lors du lancement du Conseil en 2006, on avait beaucoup insisté sur l'universalité, l'impartialité, l'objectivité du nouveau Conseil. 4 ans après, quel est le bilan selon vous?
L'examen périodique universel, étant donné que c'est le même étalon qui est appliqué à tout le monde, qu'il soit pays du Nord ou Sud, grand ou petit, qu'il s'agisse de Nauru, ou de la Chine, ou des États-Unis, ou de la Fédération de Russie, ou de la Grande-Bretagne, ou des pays africains. Bon, nous avons vu aussi qu'après 4 ans, le Conseil des droits de l'homme ne s'est pas arrêté dans l'œuvre d'élaboration de nouveaux standards, puisqu'elle a adopté une déclaration sur les droits des peuples autochtones, qui est très importante. Elle a adopté la Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et elle a adopté un protocole à la Convention sur les droits économiques et sociaux et culturels.
Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Le Conseil des droits de l'homme aussi a continué à créer de nouveaux mécanismes protecteurs. Nous avons maintenant un nouveau rapporteur spécial sur les droits culturels qui n'existait pas. Nous avons un nouveau comité qui a été mis en place en septembre dernier sur les lois qui discriminent contre les femmes et qui va travailler sur tous les pays du monde qui n'existaient pas. Ensuite, nous avons vu que le Conseil des droits de l'homme répond vraiment aux événements. C'est-à-dire que la plus grande difficulté, c'est de répondre de façon adéquate aux violations qui se passent tous les jours, aux violations chroniques et aux violations systématiques et aux situations d'urgence. Et nous avons vu que ce Conseil a mis en place une commission qui a rendu un rapport sur ce qui s'est passé à Gaza. Nous avons vu que cette commission a aussi mis en place un système de rapporteurs spéciaux qui ont fait des rapports sur le Darfour. Nous avons vu aussi que ce conseil a émis une déclaration présidentielle sur la situation en Équateur quand il y a eu récemment une tentative de coup d'État.
Mais derrière tous ces dispositifs, quelle place pour les victimes de violations de droits humains? Parce qu'il y a le mécanisme révisé du procédé de plainte qui permet à des individus et à des organismes de porter à connaissance du Conseil des plaintes de violations de droits humains. Comment cette procédure peut aider concrètement les victimes de violations de droits humains et avec quels résultats jusque-là?
Bon, cette procédure a l'avantage d'être confidentielle. Mais elle est actuellement suivie par de nombreuses organisations, de nombreuses victimes, puisque cette procédure prévoit leur examen par un comité qui ensuite s'adresse à un autre comité par des experts, donc qui sont membres du Conseil consultatif des droits de l'homme, qui décide que les plaintes soient admissibles et que la situation qu'elles dénoncent, elles sont crédibles, etc. Ensuite, maintenant, il y a des démarches qui sont effectuées au niveau de notre comité d'États membres pour voir que faire de ces plaintes. Souvent, ils engagent le gouvernement concerné pour demander des mesures, pour des réparatives. Et si cela ne marche pas, ils sont en mesure de transmettre le dossier au Conseil des droits de l'homme pour qu'ils prennent d'autres mesures plus efficaces.
Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Et qu'en est-il aussi du comité consultatif qui sert également de groupe de réflexion au Conseil des droits de l'homme? Quel est son rôle et quel résultat concret depuis sa création?
Bon, le Conseil consultatif continue à travailler comme avant avec un certain nombre d'experts qui sont d'ailleurs des experts vraiment rompus en la matière. Mais il est aussi question de réformer ce Conseil puisque certains experts auraient voulu avoir un pouvoir d'initiative, c'est-à-dire ne pas seulement faire les rapports qui leur sont demandés par la Commission des droits de l'homme, mais aussi pouvoir eux-mêmes se saisir de certains sujets d'intérêt.
Comme avec la Commission des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme continue également à travailler avec les procédures spéciales de l'ONU. Est-ce plus efficace qu'avant, avec la même liberté de manœuvre des experts ou rapporteurs spéciaux? Et quelle est leur place dans le nouveau Conseil des droits de l'homme?
Aucun doute que les procédures spéciales, les experts indépendants, les groupes de travail sont le fer de lance du système onusien de protection.
Même s'ils sont souvent décriés par certains États qui n'aimeraient pas qu'on regarde dans leur jardin.
Je crois que s'ils étaient dénués de toute efficacité, ils ne feraient pas autant de bruit. C'est clair. Mais de l'autre côté aussi, il faut tenir compte du fait que, encore une fois, ils représentent le Conseil des droits de l'homme. Et ils sont indépendants. C'est leur indépendance qui est en fait leur atout principal. Ils font aussi des rapports publics. Pas de rapport confidentiel. Et ce sont des experts qui ne sont pas payés. Ils travaillent tous de façon gratuite pour le compte des Nations Unies. Donc c'est vraiment un engagement, un militantisme en faveur des droits de l'homme qui est certainement la plus grande motivation de leurs actions. Bon, il est clair qu'ils se préoccupent et ils travaillent sur des sujets controversés. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse de la protection contre la torture, qu'il s'agisse du droit à l'alimentation, qui est un sujet très important, qu'il s'agisse des droits culturels, qui est le problème numéro un, qu'il s'agisse de la lutte du racisme, de la liberté de religion. Et on vient de créer de nouveaux mandats qui, à mon avis, prouvent leur efficacité. Puisqu'on se rend compte que les mêmes sujets, lorsqu'ils sont confiés à des experts indépendants, connaissent des progrès qu'ils n'auraient pas connus autrement. Parce que nous avons qu'il y a beaucoup de mécanismes qui travaillent sur les droits des femmes, mais cela n'a pas empêché qu'on crée, juste au mois de septembre, ce nouveau mécanisme qui va donc voir les lois et les mesures qui discriminent contre les femmes dans toutes les régions du monde.
Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu à droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Donc là, c'est la dernière question de cette interview. Vous avez devant vous aujourd'hui un jeune garçon ivoirien de Boaké ou bien une jeune fille du Caire qui vous demande exactement en un mot à quoi sert le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous lui répondez quoi?
Comme pour reprendre le propos d'un des délégués, il dit que l'ambition du Conseil des droits de l'homme, c'est devenir la conscience du monde.
Bakr Wali Ndiaye, merci beaucoup.
Merci.
Voilà, et c'est avec Bakr Wali Ndiaye, le directeur du Conseil des droits de l'homme au commissariat de l'ONU, qui répondait donc aux questions d'Alpha Diallo que se referme Escale. Escale, magazine de la Radio des Nations Unies consacré cette semaine au Conseil des droits de l'homme. Escale qui était présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Florence Westgaard et de Zach Prouit. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.